Le journal, présenté par Alexandra Duboucheron.
Bonjour à toutes et à tous. C'était le 6 avril 1994. L'avion du président rwandais abattu par un missile, étincelle du génocide des Tutsis avec le massacre de 800 000 personnes. Aujourd'hui, 24 ans après les faits, c'est peut-être l'épilogue de l'enquête en France. On l'a appris hier, le parquet de Paris a requis un non-lieu à l'encontre des 7 personnes fidèles de l'actuel président rwandais, Paul Kagame, soupçonnées d'être derrière cet attentat. Tous ont été mis en examen malgré l'arrêt des investigations en décembre dernier. Le procureur de la République estime que les charges ne sont pas suffisantes. Une décision attendue pour le journaliste Jean-François Dupaquier, auteur de plusieurs ouvrages sur le génocide rwandais.
Cette instruction qui a duré 20 ans a démontré de très nombreuses manipulations et erreurs. On voit bien que les tirs de missiles qui ont abattu l'avion du président Habyarimana le 6 avril au soir venaient du camp de la garde présidentielle qui abritait également le bataillon de lutte antiaérienne. Ceci est connu depuis le début et il est évident que avoir occulté cet aspect essentiel du dossier pendant environ 15 ans était une aberration absolue que le parquet a bien voulu considérer en déclarant que cette enquête n'avait pas de sens et que on ne pouvait pas poursuivre des gens qui, de toute évidence, n'ont pas abattu l'avion. C'est un rétropédalage d'abord du parquet qui, pendant très longtemps, a manifesté une grande inertie devant l'évidence des manipulations de l'enquête et qui a fini, on va dire, par se réveiller, parce qu'il n'y a pas d'autre terme.
Suite à cette décision, qu'est-ce qu'on peut entrevoir dans le futur des relations diplomatiques entre Kigali et Paris ?
Il est certain que Kigali attendait depuis des années une décision de non-lieu, une décision définitive de non-lieu. Donc, on a bien compris que l'ordonnance du parquet n'est pas décision définitive et qu'on peut espérer à présent un rétablissement des relations diplomatiques normales, c'est-à-dire l'acceptation par le gouvernement de Kigali de la nomination d'un ambassadeur de France et la reprise du dialogue avec la France.
Le journaliste Jean-François Dupaquier avec Julie Pacaud pour France Culture. Hier, aussitôt après cette annonce, l'un des avocats des parties civiles a dénoncé une décision politique. Il revient désormais au juge d'instruction chargé de ce dossier de décider de suivre ce réquisitoire ou de passer outre et de renvoyer les protagonistes devant le tribunal. Marine Le Pen, elle, se dit sereine malgré sa mise en examen aggravée dans l'affaire des emplois fictifs présumés du Front National au Parlement européen. La présidente du parti, rebaptisée Rassemblement National, était poursuivie pour abus de confiance. Elle l'est désormais aussi depuis 2 jours pour détournement de fonds publics. Hier, elle a profité d'un déplacement en Corrèze pour se rassurer auprès de ses fidèles. Reportage à Cublac de Philippe Graziani.
Ils l'ont accueillie comme une star de la chanson, l'est par ses groupies, tous fans inconditionnels.
C'est la plus belle des choses qui puisse arriver au pays.
C'est notre Jeanne d'Arc des temps modernes.
Inconditionnel jusqu'au bout, personne n'émet le moindre doute après la nouvelle mise en examen de leur chef de file.
Ça nous conforte dans l'idée qu'on est véritablement victime d'une persécution parce qu'on fait peur au système.
Il n'y a pas que elle qui fait ça. Il y a plusieurs de personnes qui font ça et eux, par contre, on ne les jugera pas.
Peu importe ce qu'elle a fait, c'est défendable. Il faut voir par rapport aux autres qui font la même chose.
Et Marine Le Pen affiche une non moins grande confiance sur le sujet.
On voit s'amonceler sur nous les persécutions. Avant, c'était une par mois, puis une par semaine. Là, en ce moment, c'est une par jour. Alors, encore une fois, signal à tout le monde, et particulièrement à nos adversaires, ils n'arriveront pas à nous intimider.
Après un long bain de foule et moult selfies, Marine Le Pen a prononcé un discours au ton très mordant, réservant ses foudres surtout à Emmanuel Macron, qui, selon elle, prépare un Tchernobyl social. Puis le discours s'est fait plus électoral. Elle a appelé les militants à se mobiliser pour les prochaines élections européennes pour que celle-ci soit le début d'une insurrection électorale pacifique.
Philippe Graziani pour France Culture. 80 marches pour le climat étaient organisées hier un peu partout en France. Elles ont rassemblé 100 000 personnes au total selon les organisateurs. Défilé aussi hier à Berlin, mais cette fois contre le racisme et pour dénoncer la montée de l'extrême droite en Allemagne. 150 000 personnes ont manifesté à l'appel d'un collectif d'ONG, d'artistes et de citoyens. L'extrême droite qui pourrait bien rafler la mise en Bavière aujourd'hui, cette région du sud-est du pays renouvelle son parlement. Les bureaux de vote viennent d'ouvrir. Le parti conservateur CSU, allié de la CDU d'Angela Merkel, est en passe de perdre sa majorité absolue. Amateur d'art et de culture scandinave, il fallait être à Stockholm hier. Le musée national suédois, l'un des mieux conservés d'Europe, a enfin rouvert ses portes après 5 ans de rénovation. Notre correspondant Frédéric Faux, en tout cas lui, y était et il a pu rencontrer les tout premiers visiteurs.
Aujourd'hui, c'est l'ouverture. J'ai vu tous les travaux pendant 5 ans. Je devais être là.
Le public était au rendez-vous ce samedi pour la réouverture du Musée national de Stockholm. Les habitants de la capitale suédoise ont pu découvrir un nombre d'œuvres exposées multiplié par 5. Des cours intérieures recouvertes de verrières monumentales. Des salles peintes de couleurs vives et réorganisées de façon chronologique. Après 5 ans de travaux, cette institution suédoise est méconnaissable. Elle va pouvoir retrouver son rôle, qui est celui d'autres musées nationaux à travers le monde, de référent de la culture suédoise. C'est là que sont conservés des chefs-d'œuvre de la peinture européenne du XVIe siècle aux années 1900, comme un célèbre autoportrait de Rubens, mais aussi les scènes de campagne d'Anders Zorn, considéré comme le plus grand peintre du pays. Susanna Peterson est la toute nouvelle directrice du musée.
Nous montrons ces peintures iconiques, ces chefs-d'œuvre que tout le monde connaît en Suède. C'est comme un livre d'images qui parle directement à votre cœur. Et les réactions après la destruction cet été du musée national de Rio au Brésil nous ont bien rappelé pourquoi ces lieux de mémoire comme nos musées sont si importants pour nos pays, car ils sont liés à notre identité.
Après rénovation, le musée national peut accueillir jusqu'à 10 000 visiteurs par jour et exposer plus de 5 000 œuvres. Des tableaux, mais pas seulement. Ces toiles sont en effet accompagnées de meubles, de bijoux ou d'objets décoratifs de la même époque afin de les resituer dans leur contexte.
Frédéric Faux, correspondant à Stockholm pour France Culture. Le prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre a été décerné au photographe Mahmoud Hams hier pour son reportage pour l'AFP sur les heurts à la frontière entre Israël et Gaza. En presse écrite, c'est la journaliste américaine Kenneth Rosen qui se voit récompensée pour un reportage en Irak sur les corps des djihadistes. Et puis deux reporters de CNN remportent le prix télé pour un reportage sur les ventes d'esclaves en Libye. Le temps de ce dimanche, après la chaleur hier, ça se dégrade du Cotentin au Languedoc-Roussillon. Pluie et baisse des températures sur le reste du pays. Le temps restera sec, encore bien ensoleillé. Les températures entre 13 et 17 degrés au meilleur de la journée.